Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre huitième podcast des...
Ouais.
Parfait. Je suis fatigué. Salut, Tom, ça va?
Ça va, mon Sylvain, ça va, ouais.
Eh ben ça va, écoute, aujourd'hui on est dans un endroit un petit peu particulier puisque nous sommes au Zénith d'Auvergne.
Alors à côté, hein. On n'est pas dans le Zénith, pas encore, ça c'est pour l'année prochaine, on est en train de vendre les places.
Ah, pas cher. Donc nous sommes avec Eric Prévost. Ce soir, il y a quelque chose de très particulier avec notre ami également Lionel Paris et Jacques Carle de la concession Volvo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Thomas?
Alors aujourd'hui, nous, effectivement, on a répondu à l'invitation d'Eric par rapport à une remise de participation à un partenariat qu'il a noué avec Lionel, oui, dans le cadre de l'Event Trail de Roya.
Et bye Volvo, oh ça y est, on l'a placé.
Ah, on a le bye,
c'est bon, on l'a placé pour la soirée.
Oui, donc effectivement, donc Eric, tu vas peut-être te présenter et tu vas nous dire un petit peu ton domaine d'activité et dans quel cadre finalement tu t'interviens professionnellement parlant et dans le cadre de ce partenariat avec le trail.
Attends, je baisse le micro pour Eric parce que ceux qui ne voient pas à l'image, voilà, merci Eric.
Merci Sylvain de reconnaître ma grande taille. Donc Eric Prévost, oui, donc moi je suis le gérant d'ICC Finance qui est une entreprise de courtage, c'est-à-dire qu'on... Pour faire simple, on est des grossistes du prêt immobilier. On va chercher pour les clients les meilleurs taux et on les accompagne lorsqu'ils ont un projet immobilier ou un projet professionnel. Et on les accompagne du début, c'est-à-dire de leur projet jusqu'à la fin de leur projet. C'est-à-dire jusqu'à temps que l'argent soit sur leur compte pour pouvoir réaliser
rembourser.
Leur projet.
Ben pour voilà. Rembourser.
Commencer à rembourser.
Ben oui, mais c'est...
Voilà.
Très bien. Par rapport à tout ça, donc finalement, donc tu deviens partenaire de l'Event Trail de
oui.
Roya, d'accord. Tu cours.
Alors,
ah ben non, mais
Lionel,
c'est pas, non, c'est pas une question piège. Il n'y a jamais de question piège.
J'essaye. Alors, si tu me poses la question, Thomas, je te dirais oui, mais je te prie alors de ne pas la poser à Lionel parce qu'il n'aura pas la même réponse. Ou il dira qu'il faudrait que je m'affûte. Donc, c'est en général ce qu'on répète. Et oui, on a décidé d'être partenaire de l'Event Trail. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, d'abord, parce que Lionel aime le dire. Et je pense qu'on va dire la même chose, c'est une histoire de potes. Et très honnêtement, déjà être partenaire de ses potes, ben, je trouve que c'est déjà une très belle idée. Ensuite, ben, il y a les valeurs du sport. Notamment, on essaie de courir. On va peut-être monter une équipe. Alors là, je l'annonce, l'équipe ne le sait pas encore, ICC, mais on va faire une équipe de course à pied. Mode est très contente. Donc Mode, c'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est mon associé donc, chez ICC Finance. Là, elle est déjà toute rouge. Elle se dit, mais quand est-ce que je parle au micro? Pourquoi Event Trail, au-delà du fait que ce soit une histoire de potes, c'est que ben, le sport, ça nous parle. Je pense qu'il y a des valeurs assez communes, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je pense que l'entreprise, c'est du sport au quotidien. Donc, être partenaire d'un bel événement comme celui de l'Event Trail, c'est bien. Et puis, Event Trail, moi, il y a quelque chose qui m'a parlé. Ces deux dernières années, on ne veut pas dire qu'ils ont été aidés par les événements. Pour autant, on est là aujourd'hui. Et on est là parce que y a une équipe derrière l'Event Trail qui s'est battue et qui a fait qu'aujourd'hui, l'Event Trail peut vivre. Et c'est peut-être ça aussi un peu le monde de l'entreprise. C'est cette ténacité qui aujourd'hui caractérise un chef d'entreprise ou l'entreprise de manière générale. Et donc, encore plus peut-être aujourd'hui et sur celui-ci, je dirais qu'il y a un lieu commun entre l'entreprise et puis Lionel et toutes les forces qu'il a mis pour pouvoir aujourd'hui avoir l'Event Trail qui démarrera en octobre.
Très bien, belle introduction. Il manque rien. Lionel, c'est bon, il était bon?
On l'a placé au début.
Non, mais je crois qu'en fait, c'est effectivement, tout est bien résumé parce qu'effectivement, je dirais que le monde de l'entreprise, comme dans le monde du sport, alors nous, effectivement, on parle de la borne dans le sport. Mm-hmm. Je pense que la borne, ça fait aussi partie du monde de l'entreprise, la performance, les objectifs. Mm-hmm. On va y revenir plus largement tout à l'heure, effectivement, mais l'idée générale, tu l'as, l'objectif dans une entreprise, on se fixe des objectifs également en sport. On a un chemin à parcourir pour aller vers cet objectif. Et puis, on va en parler tout doucement avec Sylvain tout à l'heure. Comment on se fixe un objectif? Quel impact a un objectif sur une stratégie? Comment on va dire orienter, grandir à travers cet objectif avec les échecs, les réussites et comment on se projette sur d'autres objectifs?
Mais avant ça, moi j'ai une question. Quel est ton sportif d'endurance préféré? Si ce n'est
Sylvain Georges.
Lionel Paris.
Sylvain Georges, vous l'aurez compris. C'est mon sportif préféré. Tu voulais l'entendre. Hein. Oui, tu sais plaisir. Que je l'ai préparé longtemps, j'ai beaucoup hésité avant de répondre ça. Mais je ne pouvais pas faire autrement.
Et toi, non, blague à part, pour faire une corrélation avec les objectifs, qui est quand même l'objectif, c'est un peu le thème du jour, l'objectif sportif. Pour une entreprise, voilà, c'est la rentrée scolaire. Uh-huh. Pas scolaire, c'est la rentrée des entreprises et également pour beaucoup de sportifs. Toi, aujourd'hui, voilà, en tant qu'entreprise, quelle est la corrélation que tu as avec cette rentrée et cette rentrée sportive? Est-ce que tu peux nous en parler?
L'objectif, après, on peut l'appeler comme on veut. On en a parlé aujourd'hui, donc ça tombe bien. Pour nous, c'est surtout un cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, il faut se fixer un cap. Un cap de rentabilité, un cap de qualitatif, hein, savoir où on veut aller, toujours être en veille avec le marché. Parce qu'on a quand même un vocabulaire commun avec le monde du sport, hein, c'est la concurrence. C'est au-delà de la concurrence, c'est le challenge, c'est l'échec aussi, hein, parce que ça nous arrive, mais ça nous oblige à nous remettre en cause. Donc l'objectif, oui, on le prépare. Alors on le prépare dans l'idée de se donner un cap, et puis après, on se prépare un certain nombre d'étapes pour savoir si on arrive à passer l'étape, comme tu as pu peut-être te donner comme étape quand tu as fait ta belle performance ces derniers temps, Sylvain.
Bon, on va y revenir. Oui. On va le laisser tranquille.
Oui, Eric,
merci à vous.
Merci à toi, Eric.
Allez, bon courage, Eric. Et est-ce que tout le monde est arrivé ou pas encore?
Écoute, je vais regarder discrètement. Je ne crois pas encore, mais bientôt. Merci Sylvain, merci Thomas.
Merci Eric.
Merci Eric de nous accueillir pour ce podcast. Allez, je reprends le casque, vous ne le voyez pas à l'oreille. Allez, c'est parti. Voilà, écoutez, les amis, vous avez un peu compris l'intérêt, on va dire, commun entre le monde de l'entreprise et le monde du sportif. Alors nous, voilà, maintenant, dans ce podcast, on est sur un podcast dédié au sport outdoor, l'endurance. Avec Thomas, on va vous aborder, clairement, c'est la rentrée. C'est quoi un objectif? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça nous guide? Ça sert à quelque chose? Donc, on va aborder ça tout de suite. Tac. Heureusement, on peut couper, hein, c'est bien. Hein. Ça y est, c'est la rentrée. L'été vient de passer avec un temps plus ou moins maussade. Pour certains, Thomas, moi j'ai l'impression que la rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier.
Oui, alors en fait, il y a un dicton qui dit c'est bien de commencer en septembre, c'est mieux de continuer en janvier. Mais l'esprit avant de la rentrée, c'est qu'est-ce que vous avez fait de l'été? Perso, j'ai à peu près rien foutu. J'ai à peu près rien fait, j'ai pris 3 kilos.
Ça se voit, il y a marqué pump sur ton t-shirt, mais maintenant on peut pomper. Là, ouais. Tu vois, c'est...
Mais alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qui ont fait un objectif dans l'été, mais en fait, ça se voit plus maintenant.
De qui tu parles?
Je sais pas.
D'accord, merci Thomas.
Tu peux nous en dire plus peut-être?
Alors oui, voilà, j'ai fait la race Cross France, 2500 km, et voilà, c'était mon objectif depuis 10 mois. Mais là, concrètement, j'ai plus d'objectif sportif. Si ce n'est me mettre à la course à pied et faire l'Event Trail.
Ouais. Ça, c'est pas un objectif, c'est un rêve. Je sais que tu rêves toujours de te mettre à la course à pied.
Parce que pour toi, la course à pied, c'est un sport.
Eh bien oui, c'est un sport. Non, mais alors pour les cyclistes, c'est un sport. Nous, c'est juste
un quotidien.
C'est un quotidien.
Un objectif de faire, mais il n'y a pas d'objectif de performance. C'est-à-dire, j'aimerais le terminer, mm-hmm. le 9 km de nuit, mais je me dis pas. Alors que toi, quand tu prends le départ d'une course à pied, tu dis, ouais, je finirai bien dans les 10.
Alors, ouais, ça dépend combien si on est au départ. effectivement, un objectif, ça va être quoi? Un objectif, on arrive sur finalement deux visions d'un objectif. Il y a l'objectif où toi, tu te refixes un objectif, et puis un objectif finalement de. Parce que tu as réussi ton premier objectif qui était la RAF. Et puis il y a un objectif de, je vais me projeter sur quelque chose. Se projeter sur quelque chose, c'est simplement se dire, je vais me donner, comme a dit Eric, un cap. Eh oui, là il vient de me marquer mon tic verbal. Mais bon, vous l'avez
finalement.
Arrêté, finalement. c'est une lutte du quotidien, ce finalement. Mais l'idée de l'objectif, c'est en gros, comment je guide mon cap vers quelque chose qui va valider ce cap-là. Donc, moi, là, je n'ai pas d'objectif en particulier, si ce n'est me dire, ok, je vais me mettre un petit peu plus de façon concrète à la course à pied, plus régulièrement, un petit peu dans la finalité que je faisais avant, avec des objectifs réguliers. Un objectif, c'est quoi? bah déjà, c'est quelque chose qui va, on va dire, orienter votre entraînement.
Te guider.
Exactement.
Est-ce que c'est toi qui... Moi, j'ai une question, Thomas. Est-ce que c'est toi qui te guides ou tes entraîneurs ? Parce que souvent, c'est les entraîneurs qui décident à la place des coureurs. Et moi, je trouve ça bien dommage.
Alors, un objectif, il va être géré par de la motivation. La motivation, elle va être de deux ordres. Soit tu vas avoir une motivation extrinsèque, c'est-à-dire que c'est justement mis en place par ton entraîneur, par ton environnement extérieur. Finalement, il y a Roger qui a fait ça, bah, peut-être que moi, je vais réussir à faire mieux. Ça, c'est une motivation purement extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est sans avoir d'impact avec votre environnement extérieur, c'est quel projet vous vous mettez intérieurement parlant. Est-ce que je suis capable de faire ça ? Et est-ce que ça va me faire du bien ? Est-ce que ça va me faire grandir ? Un objectif en sport, comme dans la vie, c'est un projet. Et ce projet, comment on le valide ? Ben, à un moment donné, on va essayer de se projeter sur la réussite et voir de mettre des critères très objectifs sur est-ce que j'ai réussi ce projet-là. La motivation intrinsèque, ce qui est intéressant, c'est que là, dans la littérature, sur les blessures, parce que ça a été quand même un peu... C'est un petit peu mon quotidien.
Ça y est, c'est le médecin qui parle. Hein. Non, il sauve des vies.
Chaque fois, il dit ça. En fait, arrête, parce que tu vas les énerver, les médecins. Non, je suis que kiné, en fait. Alors, du coup, ça... Voilà. Mais bon, par contre, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de coureurs blessés. Et la motivation intrinsèque, faut savoir qu'elle blesse plus, finalement, qu'une motivation extrinsèque.
C'est-à-dire que ta motivation personnelle... Tes convictions te blessent plus que si tu fais un défi avec quelqu'un
Et
tu la prends cool. Et tu prends cool.
Oui, parce que souvent, quand tu as une motivation extrinsèque, à savoir, on est à deux, on va faire un petit footing, puis globalement, ça va commencer à faire la demi-roue, et puis ça va s'emballer, et puis finalement, on voit qui c'est qui est en haut de la côte en premier, et voilà. Mais là, on se rend compte que la motivation extrinsèque, on lâche plus facilement que quand on a une motivation intrinsèque et qu'on essaye de s'aguerrir et de se construire à travers cet objectif-là. Donc la motivation intrinsèque, souvent, n'est pas destructrice, mais souvent est un peu plus lésionnelle qu'une motivation extrinsèque.
En termes de lésion, justement, c'est parce qu'on a envie de trop bien faire, on a envie que ça arrive vite. On fait le parallèle avec le monde dans l'entreprise. Clairement, une entreprise qui grossit, bah tiens, on va prendre le cas d'Eric, par exemple. Est-ce que, tu dis...
Tu parles de l'entreprise qui grossit, hein.
Oui, pas lui. Non, bien sûr. Il y a son coach qui est là, on va pas parler de ça tout de suite, il va être énervé.
Ouais, pour être sûr.
Donc on se dit, voilà, est-ce que 2021, j'aimerais atteindre tel objectif financier ou de masse salariale. Et ben, c'est pareil dans le sport, mais derrière, c'est compliqué parce que ça répond pas forcément aux mêmes attentes.
Un objectif, ça dépend du point de départ. En fait, on a effectivement une ligne d'arrivée. Le point de départ, en fait, ça va dépendre d'où on part d'un point de vue, on va dire, potentiel physique. Potentiel sociétal. Donc l'idée, on se blesse ou on ne réussit pas, souvent parce qu'on veut être, on est trop impatient et on n'est pas assez, on dure pas assez dans le temps.
Donc la patience, ta première vertu.
Mais c'est ma qualité première. Je sais de quoi je parle.
C'est pour ça que ce podcast, on va. À point nommé.
Ouais,
expression des années 20.
À point nommé, on est pas mal.
Oui, d'accord. Tu sais qu'aujourd'hui, j'ai appris une expression.
Oui.
Le bas blesse. Pourquoi le bas blesse ?
C'est vrai. C'est pas vrai.
Oui, c'est ça. Donc le bas, en fait, c'était les ceintures qui permettaient de tenir les charges sur les ânes.
Ah oui.
Là, XVIIe siècle. Et du coup, ça, quand c'était mal fixé, ça blessait. Bah voilà.
Bon, c'est pas mal.
On a fait l'expression en avance.
C'est une belle, belle parenthèse. Merci. Ça dit en passant.
Donc l'objectif, on va dire, on veut anticiper la finalité de notre travail. Et c'est ce qui entraîne.
On n'est pas assez patient. Mais globalement, beaucoup, beaucoup de gens qui se blessent ou qui ne réussissent pas leur objectif qui s'était fixé, c'est simplement qu'ils veulent aller beaucoup trop vite. On se blesse parce qu'on en fait trop, trop vite, trop tôt. Donc, se projeter sur un objectif, c'est déjà être en phase avec ses capacités physiques du départ.
Est-ce que se projeter sur un objectif, c'est s'entourer de personnes obligatoirement ? Ou est-ce qu'on dit, moi, je regarde les revues. Il y a des trucs qui sont très bien faits et je m'arrête à ça. Voilà, ça, c'est un débat aussi. Hein.
Mais en fait, s'entourer de personnes, c'est s'entourer d'une certaine expertise. Une expertise, alors peut-être elle n'est pas forcément tout le temps pertinente, mais elle te permet finalement de gagner du temps. Parce que s'entourer d'expertise, c'est gagner du temps sur un objectif qu'on s'est fixé et que finalement, tout seul, ça aurait presque pris un peu plus de temps. S'entourer, c'est pas forcément... Alors, il faut toujours s'entourer des bonnes personnes, le bon entraîneur, la bonne relation... La bonne veux dire quelqu'un qui va vous, on va dire pas un mentor, mais quelqu'un qui va vous orienter vers une stratégie plutôt qu'une autre. Et quand je me prépare pour un trail, bah, peut-être c'est plus pertinent de m'entourer de gens qui sont experts dans un milieu un peu plus outdoor que route simplement. Et ça, on fait des ponts avec n'importe quel domaine d'expertise, que ça soit en vélo ou dans une société et dans une entreprise.
Ouais, mais tu vois, pour faire le parallèle entre le monde du vélo et la course à pied, bah maintenant que je fais attention beaucoup plus à la course à pied et notamment à l'event trail, c'est que en course à pied, quelqu'un qui dans une soirée un peu bourrasse se dit tiens, allez, je vais faire l'event trail de Roya avec les copains et les collègues, d'accord. Mais en fait, je m'aperçois qu'il s'approche beaucoup plus facilement de personnes qui sont un petit peu plus expertes. Alors que dans le vélo, ouais, je vais aller faire une cyclo, par exemple, l'étape du Tour. Je regarde juste les magazines, mais je ne m'entoure pas parce que je pense que j'ai le savoir. Alors qu'en course à pied, j'ai l'impression que les participants sont beaucoup plus sensibles à, je dirais, la performance, au bien-être, tu vois, alors, l'alimentation. Ou est-ce que c'est un miroir déformé de...
Non, c'est ta vision, c'est un spectre. C'est-à-dire que tu vois la course à pied à travers un spectre nouveau parce que tu le vois, parce qu'à l'aube des 40 ans, tu vois et tu devines l'activité physique différemment. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est sur l'aspect sensibilité. Mais en fait, le coureur à pied, il est surtout beaucoup plus sensible aux blessures qu'un cycliste. Donc ça nécessite forcément de s'entourer parce que globalement, quand on s'est rendu compte qu'on le fait un peu tout seul, 66% des coureurs se blessent tous les 2 ans. Donc un coureur par tous les ans, 50% des blessures des coureurs vont se blesser, quel que soit le niveau d'expertise.
Quel que soit le niveau, c'est ça.
Quel que soit le niveau. Donc je dirais que quand on se blesse en course à pied, on est juste à peu près normal. Il y a 2 types de coureurs à pied, les coureurs blessés et ceux qui ne sont pas encore blessés. Donc quelqu'un qui va durer en course à pied, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine capacité à être résilient, à pouvoir se soigner, à pouvoir s'entourer au moment de sa blessure des bonnes personnes au bon moment et d'avoir les bonnes stratégies.
Donc, est-ce que la blessure est forcément en corrélation avec le manque d'entraînement ou le manque de soutien de la part d'un entraîneur?
Alors la blessure, elle est là parce que c'est un petit échec. Un petit échec parce qu'on arrive devant un problème, une problématique. Cette problématique, bah, c'est la blessure. Comment je me sors de cette blessure par rapport à mon objectif? On se blesse juste parce qu'on n'est pas prêt à ce moment-là pour encaisser de la contrainte suffisamment par rapport à ce que nos capacités sont capables de d'encaisser. Donc j'ai dépassé mes capacités du moment. J'attends, je patiente, j'attends effectivement d'améliorer mes capacités pour pouvoir encaisser cette même contrainte à un moment différent avec des capacités tissulaires meilleures.
Alors là, on parle de blessures tendineuses musculaires, on ne parle pas par exemple d'une petite foulure de cheville qui peut arriver vraiment par hasard parce qu'un petit gravillon était sous tes pieds.
Oui, la grosse expertise, la foulure de cheville. Donc la foulure de cheville. Non, la foulure. Alors la foulure, c'est grave. Hein. La foulure, c'est comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Il y a la bonne foulure et la mauvaise foulure. Mais non, mais l'entorse de cheville, qui reste finalement un problème, va arriver à finalement se poser des questions. Ce qu'on dit, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Donc la foulure, c'est un moment clé dans un cap qu'on s'est donné et qu'on va se poser des questions pour pouvoir rebondir de cette foulure. Donc, comme dans toute stratégie qui a donné un cap, quand il y a un problème, ça permet à un moment donné de faire une introspection et de réfléchir à qu'est-ce qui a causé ce problème-là et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pas que ça m'arrive de nouveau. Donc typiquement, je me suis tordu la cheville, peut-être que je ne suis pas suffisamment aguerri en descente, peut-être que ma technique est perfectible, peut-être que je n'utilise pas forcément les chaussures les plus adéquates pour ne pas me tordre la cheville. Mais ça, encore une fois, on est raccord avec n'importe quelle stratégie qui arrive à l'échec.
Donc c'est un phénomène d'adaptation, tu es en permanence en train de t'adapter. Finalement, tu es en train de dire que les cyclistes ne s'adaptent jamais.
Ils s'adaptent très bien à leur position.
À leur position.
Et leur position de vélo. Tu sais que j'ai lu, alors bon, c'est pas mon domaine d'expertise, hein, on se rend compte qu'il y a des profils de cyclistes et avec des mesures qui ont été mises en place sur la capacité à pouvoir ne pas se blesser quand on change leur vélo. Des fois, quand on leur change leur vélo...
C'est pas très gentil de dire ça.
Non, mais bon, toi, tu as une mauvaise capacité d'adaptation.
Non, alors voilà, petite anecdote. Pendant la RAF, j'avais un petit peu mal aux fesses et du coup, ils se sont mis à baisser ma selle, sans me le dire. Donc là, ça partait d'une bonne volonté. Sauf que moi, ils ont enlevé un petit peu, mais en fait, je l'ai senti tout de suite. Je suis monté sur... J'ai pas eu le temps de clipser les deux pédales. J'ai dit, ouais, ils m'ont baissé la selle, les coquins. Et en fait, j'ai commencé à avoir mal au genou parce qu'ils m'ont baissé un petit peu la selle. Ça partait d'une bonne attention. C'est-à-dire, on baisse la selle, il y a moins d'amplitude au niveau du coup de pédale.
Tes on change les axes.
Sont voilà. plus fixes. Et finalement, moi, ça, dans ma tête, j'ai vrillé. Et donc, toi, tu dis...
Alors, en fait, cette capacité d'adaptation des cyclistes, en fait, elle est propre à chacun. Mais elle est propre à n'importe quel individu, elle est propre à n'importe quelle entreprise de pouvoir s'adapter rapidement ou pas. Cette capacité d'adaptation, en fait, elle permet d'être un peu plus caméléon et un peu plus polyvalent dans peut-être des problématiques. Quelqu'un qui va... Il crève, on doit lui changer son... Parce que maintenant, quand il crève, c'est plus simple de quand même de changer le vélo que de changer la roue. Hein.
Oui, avec les freins à disque, ça devient compliqué.
C'est le chantier. Et donc, du coup, finalement, on se rend compte que les cyclistes qui ne sont pas blessés parce qu'on change leur vélo et qui ne sont pas forcément réglés pile poil, ils ont une capacité d'adaptation meilleure.
Oui, mais c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu plus simples d'esprit ou pas? Ils se prennent moins la tête?
Ils sont moins fragiles d'un point de vue changement.
Physiologique, voilà. Mais peut-être dans la tête aussi, du coup.
Peut-être.
Les bourrins en course à pied réussissent pas, donc à vélo ils réussissent peut-être mieux.
Non, alors souvent un bourrin en course à pied, il est bourrin sur une certaine période et finalement après il va se blesser, puis finalement il va se re-re-blesser.
Ça le calme.
Puis finalement après il se met au vélo. Un cycliste, finalement il va se blesser, puis il va se blesser mais il se blesse pas tant que ça en fait, parce qu'il tombe. Le cycliste, oui. Il se blesse parce qu'il tombe.
Oui, globalement oui.
Voilà, bon, il tombe parce qu'il dort pas. Il tombe parce qu'il glisse, il sait pas, il pilote pas très bien, mais en fait on se blesse assez peu en vélo. Par rapport à la course à pied, en fait quand on fait du surentraînement en course à pied, on finit blessé. Quand on fait du surentraînement en vélo, on est juste mauvais.
Ce qui entraîne le surentraînement de des blessures chroniques.
Exactement. Voilà. Le surentraînement, je dirais que pour si on fait un pont sur le registre de l'entreprise, c'est j'essouffle mon équipe, mais finalement est-ce que je l'essouffle à bon escient et je me rends pas compte. Il y a peu de phénomènes de suradaptation en entreprise, comme ça peut exister en vélo ou en course à pied ou à l'entraînement général. Le surentraînement en entreprise ou la sursollicitation de son équipe, souvent ça va à peu près dans le mur en général. Donc je dirais qu'une entreprise, ça ressemble plus à un coureur à pied qu'à une équipe de vélo.
Alors là, c'est totalement faux parce qu'on cherche des partenaires dans le vélo et je vais t'apporter un contre-argument.
Ouais. C'est que je suis tout oui.
Non, mais l'avantage du vélo par rapport à la course à pied, c'est que dans une équipe, si t'es pas bien un jour, tu peux laisser couler. Alors que la course à pied, t'es tout seul. Donc si t'es pas bien, la performance, il n'y en a pas, quoi.
Mais tu laisses couler, c'est-à-dire que t'as les autres qui vont t'aider à...
Ouais.
Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Il y a ce phénomène-là où dans nos entreprises, il y a les leaders au niveau des salariés.
Ouais.
Il y a toujours les meneurs et les suiveurs, et ça se voit quand même relativement vite.
Oui,
Monsieur Prévost organise des formations où justement en entreprise, et il est clair là-dessus que quand il audite des entreprises, il voit tout de suite, en 10 minutes, qui est le champion et qui est là juste pour prendre son salaire.
Mais ça, c'est les forces. C'est les forces finalement de ton équipe, mais c'est aussi les forces de l'athlète. L'athlète... Il va être bon dans le dénivelé, il va être bon dans sa capacité à pouvoir enchaîner. Mais ce qui compte pour réussir un objectif, c'est plutôt l'empilement, l'assimilation du travail, l'assimilation des entraînements qui va finalement amener à un objectif concret et à la réussite de cet objectif-là.
Bon, moi je trouve que c'est intéressant, mais au niveau de l'objectif, on se dit on en a un par an, on peut en avoir plein. Est-ce que c'est des cycles? Alors ça marche dans tous les sports, je pense, globalement, tous les sports en dehors, c'est des cycles, on fait des cycles de 5 semaines, est-ce qu'on se dit, c'est un objectif par an, moi je travaille que pour telle épreuve. C'est un vaste, vaste sujet de...
En fait, les objectifs, en course à pied, moi j'ai du mal à conseiller plus de 3 objectifs par an. Deux objectifs, entre guillemets, principaux, et un objectif secondaire qui va finalement préparer aux 2 objectifs principaux.
Alors pourtant, un objectif, ça peut servir... Un petit objectif peut servir de course de préparation d'un...
Ouais, un objet.
Donc,
ouais,
tu hiérarchises malgré tout quand même.
Oui, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir plein les courses dans lesquelles vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez participer, les fixer en objectif principal, objectif secondaire, et mettre finalement des étoiles. 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. 3 étoiles, mais 2 objectifs principaux de l'année. 2 étoiles, 2 objectifs secondaires. Et après, je vais des courses 1 étoile. Les courses 1 étoile sont des courses d'entraînement, des objectifs, on va dire, d'entraînement, les courses finalement secondaires sont des courses 2 étoiles qui vont me permettre de préparer mes objectifs principaux. Mais mes 2 objectifs principaux, pourquoi on ne peut pas en avoir beaucoup plus? Parce que ça nécessite finalement de se mettre à la planche pendant pas mal de temps finalement, parce qu'un objectif principal, c'est grosso modo 12 semaines de préparation pour pouvoir être raccord avec les besoins de l'objectif. Donc 12 semaines avec la récup derrière et puis repartir sur un cycle, là on parle de, voilà, ça fait déjà 12 et 12, 24, on est quasiment sur du 6 mois de l'année. Donc 2 objectifs principaux, ça me semble largement, ça me semble finalement assez peu viable d'en faire beaucoup plus que 2.
Parce que c'est traumatisant en course à pied. Parce que dans le vélo...
Non, alors en vélo, c'est faux. En vélo, c'est faux, ils en font. Ils font 50 objectifs, puis à la fin, ils en choisissent 2. C'était ces 2-là.
C'était là où j'ai performé.
Ouais, alors qu'en fait, ils n'avaient pas du tout choisi au départ.
la différence entre la course à pied et le vélo, c'est que la course à pied se fait au jarret.
Oui.
C'est-à-dire, ton objectif, t'es pas bien, bah t'es dedans.
Oui.
Alors que le vélo, t'es pas bien, mais tu dis, ouais, dans les rouges, et peut-être si ça monte pas trop, tu vois.
Oui, mais.
Entre un sprinter et un grimpeur, ils font pas la même course, quoi.
Non, alors ils font pas la même course, mais c'est parce qu'ils ont pas le même profil. Ils ont pas du tout les mêmes objectifs. Je veux dire, tu vas pas demander à Cavendish d'aller gagner la montée à l'Alpe d'Huez. Il pourrait le tenter. Et ça va être compliqué. Il va voir qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de choses à l'entraînement en place pour pouvoir finalement espérer, et auquel cas, est-ce que c'est finalement son créneau? Est-ce qu'un plaquiste, il a intérêt à se donner un objectif de jardinier?
Il s'y connaît dans le bâtiment, je peux te dire que là, c'est impressionnant. Il vient monter une boîte de courtage.
Mais oui.
Hein, c'est l'avenir.
Mais oui, c'est le coup.
T'as vu comment ça pousse au Zénith ici?
C'est hallucinant, c'est hallucinant.
C'est Drixer qui est là d'ailleurs.
Hallucinant.
Concernant voilà les objectifs dans une année. Donc moi quand même à vélo, moi je trouve que on peut s'en mettre un poil plus.
Oui, mais en fait ça va être je pense qu'en vélo tu peux te mettre beaucoup plus d'objectifs secondaires, mais un objectif principal restera un objectif principal et c'est celui-là qu'il faut miser, et c'est celui-là qu'il faut dans lequel faut mettre de l'énergie et de mettre de la matière grise.
Après il faut comparer aussi entre, parce que souvent les gens comparent, oui mais tu vois les coureurs pro bardés. Ouais. Par exemple, lui, il a 2 objectifs par an. Enfin, un, oui. Le Tour, et puis après, peut-être Paris-Nice ou le Dauphiné.
Ouais.
Mais après, quelqu'un qui en pratique en loisir et qui se dit, voilà, je me prépare pour une cyclo, on ne peut pas se dire, voilà, j'en ai que 3 par an. Enfin, on ne peut pas comparer ce type de préparation-là.
Ouais. Tu peux avoir tes objectifs de 3 cyclos, tes 3 meilleurs cyclos, mais après, concrètement, tu auras plein de petites cyclos qui vont te servir à être bien sur tes objectifs principaux. Un objectif, pour moi, c'est quelque chose où... Souvent, si je prends par exemple les coureurs élites, quelqu'un qui va préparer un coureur élite qui va préparer l'UTMB, il n'y a personne qui vient à l'UTMB en course de préparation. Je ne viens pas à l'UTMB pour préparer une autre course. Je ne viens pas à la Diagonale des Fous pour préparer une autre course.
Mais tu ne fais pas l'UTMB pour préparer la Diagonale?
Non, souvent. Par contre, ça va pas. Ce qui est sûr, c'est que tu fais l'UTMB, ça ne va pas t'aider à être bon à la Diagonale. ça peut être des challenges, ça peut être des projets. Mais clairement, tu viens pas aux Templiers pour dire je vais faire les Templiers pour me préparer à autre chose. Non, on fait ça, c'est des courses qui marquent une carrière, qui marquent une saison et qui peuvent servir de réel objectif principal. Maintenant, en vélo, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué parce que on a plus de raisons et de possibilités d'avoir des objectifs un peu plus différents parce que il y a plus de variations.
Alors là, et tu sais que je rebondis.
Oui.
Les JO.
Ah oui.
On dit oui, par exemple, Teddy Riner, il s'est préparé pour les JO de Tokyo, ça fait 4 ans qu'il prépare le truc.
Oui. Donc là, 5 presque.
Oui, 5, oui. Les autres athlètes, ils se préparent pour les JO.
Oui.
Alors que tu les vois, ils font les championnats du monde, ils disent oui, moi j'ai eu comme objectif cette année les championnats du monde. Alors là, c'est quand même assez compliqué en termes de hiérarchie.
Oui.
L'objectif, pour moi, du coup, quand on parle des Jeux Olympiques, ça parle pas trop, quoi. Si ce n'est juste les JO, mais tu te dis tout au long de l'année, oui, je me prépare pour les championnats du monde,
ouais,
mais en vue de préparer les JO. Mais on ne peut pas se préparer sur 4 ans.
Bah, tu peux avoir plein d'objectifs secondaires, mais après, tous les ans, tu peux avoir des objectifs principaux. Mais par contre, clairement, on va amener une stratégie qui va dire, mon but, c'est d'être champion olympique. Un sport comme le judo, le but, c'est d'être champion olympique. C'est pas d'être beaucoup de fois champion du monde. On ne sait même pas combien de fois Teddy Riner a été champion du monde. Par contre, on sait combien de fois il a été champion olympique. Et je pense qu'il aurait bien aimé être une 3e fois. Parce que je pense qu'il peut aligner encore des titres de champion du monde. Par contre, un titre de champion olympique, ben, je pense qu'il change plein de fois pas mal de titres de champion du monde pour être champion olympique. C'est une question de, en fait, c'est une question de point de vue et de sport. Le judo, clairement, ouais, c'est la championne. Les Jeux Olympiques restent quand même un carrefour hyper important dans une carrière, clairement.
Bon, bah, les amis, vous entendez un petit peu de bruit, pourquoi, Thomas ?
Eh bien, là, on vient de faire la pause apéro. Donc, l'apéro. Bon, alors, moi, ça va, j'étais à l'eau. J'ai fini. J'ai fait eau. Après, j'ai tenté le coca. Moi, j'ai dit, donc, sois raisonnable.
Problème gastrique.
Sois raisonnable. Georges en est à son troisième verre de rouge.
Alors, ça, c'est totalement faux parce que moi, je suis très impliqué dans ce que je fais. Et ce qui fait que, comme toi, par contre, j'ai bu plus de coca, mais pas de coca zéro. Hein. Moi, je triche pas. Coca sucré.
Eh oui, je comprends. Bah, t'as quand même un poids à prendre.
Alors, tu sais combien j'ai pris de kilos ?
Non, je...
7.
Oh putain. 7. Ça commence à faire. Tu sais que t'as pris en poids, t'as pris un vélo.
Oui, mais tu sais que je le sens dans les escaliers, j'ai l'impression que je monte les escaliers avec le vélo.
Avec ton vélo, bah oui, je le
Bon, moi, Tom, on parlait des JO, de l'objectif de Teddy Riner. Enfin, Teddy Riner, oui.
Ouais, des personnes qui ont finalement un objectif
sur 4 ans.
Olympique.
Oui, c'est un truc de dingue.
Ouais.
Donc là, en fait, moi, ce que je voulais parler, voilà, c'était de saluer la performance des Français aux JO.
Alors,
ah, oui. Parce que quand même,
non, mais toi,
33 médailles. Non, mais moi, je vois toujours les choses plutôt sympathiques. Tu vois ce que je veux dire?
Après, moi, je suis d'accord complètement sur le fait que, effectivement, 33 médailles, c'est toujours intéressant.
Bite d'or. 8 ouais. d'or, monsieur.
Ouais, ouais,
bon, par rapport à Rio, on va pas en parler tout de suite.
Je suis désolé. Alors, pour reprendre, en fait, le discours de Macron, qui était finalement sur l'aspect. On a été déçus. Mais en fait,
tu vas nous attirer les foudres, Laurent Blanchet.
Moi, j'ai clairement été déçu par, en fait, finalement, le rendu. Parce qu'on est, effectivement, on est moins une nation de sportifs.
Oui, mais tu l'expliques par quoi? Alors là, on est parti en débat. Est-ce qu'on va faire comme les États-Unis? Les États-Unis aujourd'hui, numéro 1. Alors, ça, c'est pour les valides, parce que sachez qu'on en dit sport.
Oui, on en dit sport.
Et on va en parler. Aux États-Unis,
oui.
L'éducation, c'est matin, on est à l'école.
Oui.
Et l'après-midi, activité de loisirs. Mais ça peut être dessin, mais ça peut être sport aussi.
Oui, mais.
Alors, est-ce qu'il y a un problème d'éducation?
Non,
il y a un pavé dans la mare.
C'est pas un problème d'éducation, c'est un problème de politique sportive. Je pense que la France n'est pas un pays avec une politique sportive qui amène au haut niveau. On a une politique sportive qui finalement, quand tu fais du sport à l'école, c'est presque une moins-value. On est sur une moins-value parce que clairement, cette moins-value, elle te permet encore moins. Elle te permet finalement encore moins d'avoir un projet professionnel. Alors qu'aux États-Unis, ben quelqu'un qui est bon en sport,
il est bon
ça
en
va.
Entreprise.
Alors ouais, parce qu'il va pouvoir finalement grâce à ça ouvrir des portes qu'il n'aurait pas eu simplement par son niveau, entre guillemets, universitaire ou intellectuel. Donc en France, faire du sport de haut niveau, c'est un sacerdoce.
Oui, mais on dit, regarde, moi le premier, j'étais en sport-études, Pôle Espoir, hein, c'est quand même au-dessus du sport-études, excuse-moi. Et là, on dit, oui, mais t'es en sport-études, mais fais attention parce que tu vas délaisser ton travail scolaire parce que tu fais du sport.
Oui.
Alors que c'est faux, parce que c'est un épanouissement personnel. Et là, on est parti dans un autre délire. C'est que le sport amène un épanouissement personnel et derrière entraîne un épanouissement professionnel. Je pense que les chefs d'entreprise qui sont présents ce soir ne peuvent pas dire le contraire.
Oui.
Les salariés, enfin les collaborateurs qui sont sportifs, c'est-à-dire qui aiment le sport en loisir, c'est des personnes, à mon avis, qui sont impliquées dans l'entreprise et performants. Quoi.
Mais combien ont tout donné au sport et finalement ont réussi une carrière professionnelle enrichie en France?
Ah, oui.
Je pense que le problème qu'on a en France, c'est que, à l'heure actuelle, hormis en foot, hormis dans des sports majeurs qui permettent d'en vivre réellement, combien de sports mineurs, individuels, d'endurance, ont permis d'avoir une vie professionnelle
épanouie. C'est très compliqué.
Alors, c'est très compliqué parce que le problème qu'on va avoir, c'est que ça ferme des portes. Parce qu'on ouvre beaucoup moins de diplômes, finalement, à cause de l'impact du temps et de l'énergie que va prendre le sport de haut niveau.
Et pourtant, moi, enfin, je vais parler de moi, mais quand j'étais en Pôle Espoir, j'ai fait un BTS commercial. Je sais que moi, le chef d'entreprise qui m'a accueilli, il m'a accueilli parce que j'étais sportif de haut niveau.
Oui, oui.
Alors, tu vois, c'est, et il voulait prendre personne d'autre.
Oui, mais est-ce que, mets-toi à la place du chef d'entreprise, est-ce que finalement, une fois qu'il t'a embauché, est-ce qu'il est content que tu te barres 8 heures par jour pour faire du vélo ?
Non, mais est-ce qu'il est content qu'on s'implique 8 heures par jour, voire 9 heures par jour, alors qu'on est payé 35 ? Ça, c'est un autre débat. Parce qu'il y a quand même pas mal de sportifs qui ont la même mentalité. Et moi, le premier, même avant que je sois mon propre patron, c'est-à-dire que moi, dans l'entreprise, je ne comptais pas mes heures parce qu'en fait, ouais. Hey, c'est quand même plus facile d'être le cul sur la chaise, entre guillemets, que d'aller faire ton sport et d'aller faire la Croix-Moran trois fois en course à pied ou la Croix-Saint-Robert, tu vois.
Ouais. Mais le problème qu'on aurait, je pense qu'en France, c'est que la culture sportive, on a finalement une nation qui a perdu sa culture sportive, qui a perdu sa culture d'élite, de la performance. On l'aura, je pense, pas le temps de la reconstruire pour Paris 2024. Quand on prend des nations
pourtant,
comme...
Pourtant, on voit là, la communication qu'ils ont sur Paris 2024. Enfin, mais... On se dit, ça y est, c'est parti, quoi, on est lancé, on va tout péter à Paris.
C'est là où on est complètement, c'est dans l'hypocrisie politique. On a le souhait, mais on met pas en place les moyens. Donc, moi, je veux bien qu'à un moment donné, Paris 2024, le discours, il est clair. On va mettre le paquet sur éventuellement les disciplines qui vont nous ramener des médailles. Là, actuellement, on est un petit peu, on s'éparpille. On voulait, ne serait-ce que comment a été structuré le Covid. Ouais. À un moment donné, les États-Unis, je pense que les nageurs américains ont eu une préparation bien meilleure que les nageurs français qui devaient finalement quémander pour pouvoir éventuellement aller nager dans des campings municipaux. Je ne sais pas si vous avez vu l'intérieur sport avec Philippe Lucas. Où globalement, il a réussi à gérer son groupe parce qu'il a privatisé un camping pour les faire nager dans la piscine du camping. Je me dis là, comment tu veux qu'à un moment donné, tu sois compétitif face à des nations comme la Chine, comme les États-Unis ou comme la Grande-Bretagne, qui ont une réelle culture, un réel impact. Deuxième point, et ça c'est le point capital, je pense que le sport de haut niveau, alors hormis dans des nations comme la Chine, comme l'URSS, mais là on commence à parler un petit peu. Là, voilà. Mais là, le sport de niveau n'a pas à être subventionné 100% par l'État. Et les boîtes, les entreprises, devraient avoir une place de choix et privilégiée pour accompagner justement les projets des athlètes élites et de haut niveau. Ça permettrait d'avoir des ponts en post-carrière, d'une part, et deuxièmement, d'être impliqué et d'avoir des stratégies économiques bien plus larges que simplement essayer de trouver 3 francs 6 sous. Quand on voit des athlètes olympiques qui sont obligés de faire des cagnottes qui se panquent pour pouvoir éventuellement faire des stages pour préparer les JO, voilà, la messe est dite. Et espérer avoir des médailles à Paris 2024, je pense que la messe... Enfin, on a le résultat avant l'heure.
T'as raison. Mais est-ce que ça, c'est pas, je vais dire franco-français, mais là, je regarde le tollé qu'a fait hier la Légion d'honneur lundi.
Oui.
Des athlètes olympiques et paralympiques, parce que c'est important de dire que quand même, les athlètes paralympiques ont ramené 54 médailles, c'est-à-dire ils ont ramené plus de médailles que nos athlètes valides.
Alors oui,
en proportion.
En nombre, en proportion moins, puisque finalement, il y a plus de médailles.
Il y a plus, bien sûr. Quand on voit que la Chine en a fait 207.
Ouais. C'est plus, voilà. Mais là, on a un accompagnement qui est plutôt bien conçu pour l'aspect paralympique.
Je trouve, parce que du coup, je vois les paratriathlètes notamment, sans nommer Alexis Anquincan, tu vois. Et moi, je suis impressionné par justement ce soutien qu'il a. Cet entourage. Et je me dis, il a réussi. Et les valides, je parle pas bien, je suis désolé. Les valides, on n'arrive pas à ça. Et c'est vrai que après, tu écoutes le discours de Macron et tu sens qu'il y a une petite déception, et là on n'est pas là pour faire de la politique, bien au contraire, c'est juste un constat, c'est factuel, et on sent une déception dans son discours. Et puis après, quand je vois sur les réseaux sociaux que les gens gueulent parce qu'il y a eu 6 millions d'euros distribués de primes de l'État aux athlètes olympiques, faut arrêter de gueuler, c'est vrai que c'est une période de crise, mais ces gens-là ont sacrifié leur vie, leur travail, pour beaucoup, parce qu'il y en a qui travaillent pas juste pour préparer les JO. Non, des fois les gens sont peut-être un peu durs là-dessus, et il faut pas oublier que c'est des gens qui donnent leur vie pour ça, quoi.
Mais voilà, encore une fois, c'est pas le résultat brut pris en lui-même. Bon, il est assez peu, finalement, assez peu analysé. Enfin, l'analyse de ça, ça sert à rien. L'analyse, elle est en lien avec le fait du le contexte. Et le contexte, c'est quoi? C'est que on n'a rien fait pendant 10 ans, et là, on s'étonne que finalement, c'est pas génial. Bah oui, c'est pas génial, je suis d'accord.
On n'a pas investi, quoi.
Mais on n'a rien investi du tout. Donc, à un moment donné, on a un retour sur investissement qui est finalement pas si mauvais.
Pas si mal pour ce qui est investi, oui. Pour amener au milieu de l'entreprise.
Oui.
Là, on va. Je pense que sur ça, parce qu'on peut en débattre.
Ah, ben bah là, on peut faire une heure et demie, deux heures.
Ouais, et puis on peut envoyer du gros.
Hein. Exactement.
Donc, cher auditeur, on veut pas t'envoyer du gros ce soir. Par contre, on va parler d'un autre truc qui est énorme quand même.
Oui.
Bon, qui est internationalement très, très connu.
Oui.
L'UTMB.
Alors, l'UTMB.
Toi, tu connais en plus.
Alors, l'UTMB, j'ai vu la course se créer. Et j'ai vu la course surtout grandir et devenir un mastodonte. Et en fait. L'UTMB est en train de devenir actuellement ce qu'est l'Ironman d'Hawaï dans le monde du triathlon.
Un championnat du monde de...
Un championnat du monde de l'ultra, un championnat du monde du... Finalement, du sport individuel endurance business. Alors, avec des avantages, des inconvénients...
Ironman, c'est
mais
pareil.
Comme Ironman, ouais. Voilà. Mais en fait, voilà, à un moment donné, ça pendait au nez. Maintenant, il y a plein de choses. Voilà, hormis la quatrième victoire de François sur cette édition-là.
Moi, ce qui m'impressionne, et je te coupe,
oui.
Il passe l'arrivée.
Oui.
Il n'est pas fatigué.
Alors, en fait, c'est...
Moi, c'est mes yeux de cycliste déformés. Hein.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand même qu'on passe la ligne d'arrivée premier. Globalement, on est rarement fatigué. Parce que sur une course.
Ça descend.
Moi, je dis toujours sur une course, le seul où on ne. On n'est pas sûr qu'il ait été à fond. C'est le premier. C'est le premier qu'il a pu gérer. Le deuxième, en gros, globalement, il a été à bloc. Et derrière, il était à bloc pour essayer de faire mieux. Mais le premier, s'il y en a un qui a pu gérer pendant la course, c'est peut-être celui-là. Maintenant, voilà, il a une préparation qui est optimisée pour être optimal. Optimisée pour être optimal.
Non, mais alors là, c'est un oxymore.
Voilà. Là, c'est optimisé pour justement être. Bah, numéro 1 sur l'ultra, je dirais c'est l'ultra des marcheurs. François, est-ce que alors on pourra revenir sur une prochaine émission, mais est-ce que François c'est le meilleur ultra trailer depuis la création de l'ultra trail? On peut en débattre.
Est-ce que les parcours sont les mêmes? Parce que moi je ne connais pas l'UTMB.
Oui, le parcours est globalement
coup, êtes, par rapport à Xavier Thévenard.
Voilà, mais après en fait oui le parcours est globalement le même. Maintenant en gros François c'est quelqu'un qui a amené une certaine expertise. Une certaine science de comment faut faire pour être bon sur l'UTMB, qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour être construire sa carrière autour de l'ultra en montagne, il a réussi. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur? On peut se poser la question parce qu'effectivement, il a gagné l'Hard Rock, il a gagné l'UTMB, il a gagné la Diagonale des Fous, mais on
ça
est quand même
palmarès, quoi.
Clairement, mais on est quand même sur des ultras qui ont à peu près tous le même profil.
Des chantiers, comme on dit dans
le livre. C'est des chantiers où globalement la part est belle à quelqu'un qui est capable de marcher et avec des cannes qui finalement indestructibles. Maintenant, il court peu, il court moins vite que pas mal d'Américains qui sont ultra forts sur des 100 miles, qui restent quand même le 100 miles, la distance étalon qui a fait naître le trail l'ultra. En France et l'ultra. Donc, oui, pour moi, François est clairement le meilleur de tous. Sur des ultra trails en montagne, sur un terrain avec minimum 10 000 mètres de dénivelé. Et par contre, ouais, sur une western, bah non, il n'est pas le meilleur. Sur des courses où il faut courir, bah non, il n'est pas le meilleur.
Ouais,
mais pour autant, est-ce que ça l'intéresse? Non, lui, il veut être performant. Est-ce que un Roglic, il voudrait absolument gagner Paris-Roubaix? Je pense qu'il cracherait pas dessus. Mais en fait, il s'en
non,
fout.
Oui,
il
oui,
préfère
oui.
gagner un Tour de France et construire son entraînement sur Tour de France. Maintenant,
vas-y.
L'UTMB, ça reste quand même la référence. Et si c'est en train de devenir l'Ironman d'Hawaï, je pense que c'est ultra pertinent pour quelqu'un qui veut vivre de la discipline du trail de devenir bon sur ce profil-là.
Non, mais c'est. Et puis en plus, il a ce côté bonhomique, pour ne pas citer. Il a l'air simple, il a l'air gentil. Ses interviews, tu vois, qu'il se prend pas trop au sérieux, mais par contre, c'est quelqu'un d'expert. Et c'est ce qui fait qu'il démocratise l'expertise. Alors que moi, je n'y connais rien. Mais en fait, moi, je prends plaisir à lire ce qu'il écrit, que ce soit sur ses réseaux sociaux ou même sur les sites internet où bah, il arrive de faire des podcasts aussi.
Oui.
En fait, ouais, tu te dis, ce gars-là, c'est une machine, mais ouais, il est simple, quoi.
Oui.
Et en fait, ça donne envie de voir ce qu'il fait. C'est pour ça que mon UTMB, avant cette année, je regardais pas. Et là, il a gagné. Du coup, j'ai regardé ce qu'il faisait. Et oui, j'ai dit, ouais, bah, tu vois, ce qu'il fait, c'est chouette, quoi.
Oui.
Enfin, c'est, voilà.
Mais après, voilà, encore une fois, c'est quelqu'un qui maîtrise ultra bien son sujet. Il maîtrise très bien. Maintenant, maintenant, c'est sûr que concrètement, est-ce que c'est quelqu'un qui dure? Donc pour moi, quelqu'un qui dure, clairement, ben, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet.
Ouais.
Parce que l'important en sport d'endurance, marcher une fois, c'est bien. Marcher deux fois, c'est mieux. Marcher sur une carrière, ben, c'est pas donné à tout le monde. Et laisser son nom et c'est gravé dans le marbre sur, une, sur un sport, ben... Oui, ça marque quand même une certaine expertise, une certaine classe.
Ouais, c'est grande classe et être le premier, c'est pas le plus dur, c'est le rester.
Exactement.
Et tu as raison. Et sur, pour revenir sur ce UTMB, moi qui suis un œil extérieur, il y a un mort.
Oui.
Là, je me dis les gars.
Oui.
C'est quoi ces conneries? On a parlé du Japon.
Oui.
En Chine.
Oui.
Le trail, 25 morts.
Oui.
Là, l'UTMB, il y en a un. Il y a un moment. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer déjà les circonstances? Et on n'est pas là pour faire une chronique nécrologique,
ouais.
Mais c'est pour parler en fait, pour introduire la notion de sommeil. Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, là, on va balayer large. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est bon, c'est sûr que c'est horrible. Un décès sur une course, on vient pas sur une course, on n'achète pas un dossard, on se met pas sur une ligne de départ, on prépare pas une course pour mourir sur cette course-là. Maintenant, le contexte, on le connaît pas forcément. C'est visiblement sur une partie très technique de la TDS. Donc, c'est une des courses de l'UTMB. C'est pas l'UTMB. C'est la course la plus technique de l'UTMB. C'est la partie, une des parties les plus techniques de la course la plus technique. C'est malheureux. Il a fait un écart. Il est tombé dans le bas-côté. Oui, il était très probablement mort sur le coup. On a arrêté la course, c'était quand même quelqu'un qui était à la base 50e de la course, donc c'est quelqu'un qui maîtrise quand même plutôt pas mal. Quelqu'un qui est 50e à ce moment-là de la course,
oui,
c'est quelqu'un qui peut finir un top 20 sans problème. Même si on prend une des éditions il y a longtemps, en 2016-2017, Ludo Pommeret à Courmayeur, il est 40e, il gagne l'UTMB. Donc quelqu'un qui est 50e à ce moment-là de la course, c'est quelqu'un qui potentiellement a des qualités physiques et la capacité à pouvoir maîtriser, qui a le pied alpin. Bah oui, il est tombé, il est mort, c'est malheureux. Maintenant, il faut comprendre que l'UTMB, ça existe depuis 2003. Il y a eu donc 18 éditions, moins Covid. Malheureusement, un mort, mais sur 18 éditions, je dirais que bon, c'est un taux beaucoup trop haut, c'est sûr, il y en a trop. Mais on parle d'ultra, on parle de montagne, on parle de clairement des contextes où le manque de sommeil va être impactant, où le manque de préparation va être impactant, où la technicité va être impactant. Oui.
Ouais, mais là, tu vois, moi, je voulais en arriver sur un sujet du est-ce qu'il faudrait pas imposer que ça soit en ultra vélo,
oui,
et en ultra trail,
oui.
C'est-à-dire voilà, on sait qu'on fait des distances, c'est minimum 3 jours.
Oui.
C'est minimum, par exemple, 2 heures de sommeil par tranche de 24 heures. C'est-à-dire voilà, on t'impose pour la sécurité des mecs, parce que moi, je vois, il y a un moment, j'étais plus lucide, je voyais. Enfin bon, bref, c'était très dangereux pour moi et pour,
oui,
les autres également. Et
oui,
vous, en ultra trail, c'est pareil. Le mec, il s'endort, il tombe dans le fossé, quoi. Tu te dis, est-ce qu'il faut pas imposer ça? Parce que toi, t'es capable de dire dans ta tête, non, je dormirai pas, je suis un tueur, quoi. Sauf,
oui,
qu'il y a un moment, la seule limite que t'as, c'est ton corps qui se met à tomber. Et là, tu te mets en danger, tu mets la vie en danger des autres. Alors, est-ce qu'il faudrait pas imposer? Tu vois, c'est moi, je pose ça là comme ça.
Oui. Moi, je suis toujours on m'impose. On t'impose quoi? On t'impose ta capacité à avoir du raisonnement, on t'impose ta capacité à analyser les choses pour ne pas se mettre en danger. En fait, on peut pas t'imposer de dormir. Finalement, ça impacte tellement ta performance, ta gestion du sommeil, ta gestion de la stratégie que tu vas mettre en place pour est-ce que tu vas dormir, est-ce que tu vas pas dormir. Le fait de l'imposer, autant sur ultra bike, on en discute, je suis pas spécialiste d'ultra bike, mais clairement, imposer quelqu'un à dormir, c'est en fait lui dicter comment il va gérer sa stratégie pour réunir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Quelqu'un qui va être fatigué parce qu'il est parti trop vite, ben en gros, c'est son problème. Il n'avait qu'à gérer et peut-être qu'il aurait été moins fatigué 4-5 heures.
Vite.
Et ouais. Donc imposer le sommeil, bah, en fait, on dit aux gens de comment ils vont gérer leur stratégie. Moi, ça me dérange. Après, bah, bien sûr, si on doit rester dans la sécurité, dans finalement la démocratie de l'ultra-bike, de l'ultra-distance, mais est-ce qu'on a besoin de faire finalement la démocratie et la popularisation de quelque chose qui doit rester extrême? Ben, moi, je suis pas pour, en fait.
Ouais, mais t'as vu tous les participants, quand même? Mais il y en a pas la moitié qui sont préparés comme des champions.
Oui,
mais il y en a qui vont préparer des événements. Alors tu te dis, bah oui, mais tu vois, par exemple, là, c'est un 40 km ou un 50 km. Tu vas pas à un 50 km, c'est un minimum de trucs. Oui. Et ben là, c'est pareil. Et il y en a, ils y vont, la fleur au fusil, genre, ouais, c'est bon, ça va passer.
Mais c'est un problème d'éducation. L'éducation, en fait, l'éducation au risque, ça fait partie, et ça devrait faire partie des stratégies d'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, c'est sûr que c'est risqué de courir en montagne en étant fatigué. Nous, par exemple, si je prends mon cas personnel, on a fait la PTL, qui est la petite trotte à Léon. Ça fait 350 km, il y a 25 000 mètres de dénivelé, c'est un chantier. Ma femme dit que c'est la rando. C'est sûr que c'est la rando. Mais c'est la rando sur des crêtes où vous y êtes à 2h du matin, il fait un temps pas possible, et effectivement, vous êtes en manque de sommeil. Maintenant, si vous voulez pas vous mettre en danger, ce que nous, on a fait, ben, en gros, tu t'organises ton truc en disant... Nous, on s'est imposé un temps de sommeil pour effectivement éviter d'arriver dans une stratégie où la dette de sommeil va être impactante, soit d'un point de vue performance, mais surtout d'un point de vue risque. Donc, imposer les gens à dormir, bah, c'est les mettre finalement dans une espèce de confort et de, on leur dégage la prise de risque qui, malheureusement, c'est à eux de prendre le risque. S'ils ont un risque à prendre et qu'ils le trouvent trop grand ou tout humain qui se met en danger, bah c'est pas à l'organisation d'assurer ça.
Ouais, mais tu vois, par exemple, et ça va parler dans le vélo. Paris-Bordeaux-Paris, Paris-Brest-Paris. Aujourd'hui, ouais. Toi, Thomas Lorblanchet, tu veux participer à ces épreuves. Tu ne pourras pas. Pourquoi? Pour être capable de faire ces épreuves, il faut que tu aies fait des brevets. C'est-à-dire, il faut que tu aies montré par A plus B via des brevets que tu as participé à des épreuves de 200, 250, 300 et 400 km,
oui.
Ce qui te permettront derrière de t'ouvrir les portes de l'ultra, c'est-à-dire des 600 et des 1000 km.
Mais c'est très bien.
Pourquoi? Alors après, voilà, c'est juste une idée comme ça. Pourquoi au Consapien, on ne se dit pas, bah voilà, aujourd'hui, vous voulez participer à un 180 km.
Mais c'est le cas.
Mais avant, il faut que vous ayez...
C'est le cas. C'est pour ça que l'UTMB, en fait, tu ne peux pas t'inscrire si tu n'as pas, entre guillemets, montré, en gros, ta capacité à pouvoir finir des courses qui vont marquer des points, et tu vas compiler tes points pour pouvoir éventuellement prétendre à t'inscrire éventuellement à l'UTMB. Maintenant, ça n'empêche pas que la course de sélection à celle qui va t'amener des points, celle-là, tu peux t'inscrire comme tu veux. En fait, on décale juste le problème, en fait, on décale juste la responsabilité, non pas sur l'UTMB, mais sur les courses de sélection qui vont t'amener à gagner des points pour prétendre éventuellement à t'inscrire à l'UTMB.
Oh bah voilà,
oui.
C'est intéressant. Hein.
Oui, mais il y a
débat. Là, on peut débattre.
Il y a débat.
En tout cas, voilà, aujourd'hui, on a parlé d'objectifs, d'entreprise.
De sommeil,
des JO. Enfin, c'était très large. Oui. En tout cas, on remercie ICC de nous avoir accueillis aujourd'hui.
Exactement.
Et puis, très bonne organisation à l'Event Trail de Roya by Volvo.
Oui.
Mon Tom, c'était toujours un plaisir de.
Mais partager. Plaisir partagé, tu
bon, c'est pas évident de faire un podcast avec du public. Hein.
Non, c'est bon, non, mais il gueule, on n'entend plus rien.
Ouais, moi j'ose pas trop raconter de bêtises parce que. On vous entend au téléphone, au micro. Hein.
Mais oui, après, voilà, je pense que les ponts sont toujours intéressants, de pouvoir amener des ponts possibles entre l'entreprise et le monde du sport. Le monde du sport. À finalement des problématiques qu'on retrouve essentiellement et énormément dans le monde de l'entreprise. La stratégie qui va permettre de se dépatouiller d'un problème, d'une problématique et d'un échec en sport est souvent la même
en entreprise.
En entreprise. Ouais, donc les ponts existent. À nous de les trouver, mais c'est surtout qu'en fait, encore une fois, un moment, gouverner, c'est prévoir, que ça soit en sport ou en entreprise, ça se prévoit les échecs, mais surtout les réussites.
Et il est On va conclure là-dessus quand même, hein, c'était excellent. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute, les amis.
Merci à vous.
N'hésitez pas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, voilà. À mettre 5 étoiles.
Exact. Hein.
Et puis à très bientôt pour un prochain podcast. Salut mon Tom.
Bisous mon petit.
Et puis, écoute, cours bien parce que j'ai l'impression que tu vas t'y remettre là. Que t'as quelques
Écoute, j'ai de la marge. Avec plus 7 kilos, je pense que pour l'instant, c'est bon, je suis encore tranquille.
Quand on n'est pas sur Andy, peut-être, monsieur. Allez, salut à tous.
Bisous, bisous.